le journal de la semaine avec vous, Pierre Veil.
Absolument, Patricia. Et nous accueillons cette semaine Alexandra Schwarzbrod, la directrice adjointe de la rédaction de Libération. Bonjour, Alexandra.
Bonjour.
Et Alexis Brézet, directeur des rédactions du Figaro. Bonjour, Alexis.
Bonjour, Pierre.
Alors, bien sûr, le résultat de la législative partielle dans le Doubs, dimanche dernier. Très courte victoire du candidat socialiste Frédéric Barbier face à une spectaculaire percée électorale du Front National et de sa candidate Sophie Montel. La gauche a senti le vent du boulet. Frédéric Barbier, quelques minutes après l'annonce de son élection, il a le triomphe très modeste.
Je ne me réjouis pas. Je ne pavoise pas. La classe politique doit renouer avec le corps électoral, avec les citoyens. Il faut accélérer la rénovation de la vie politique en réduisant les privilèges. À ces conditions, et seulement à ces conditions, cette élection peut être un tournant du quinquennat.
Alexandra Schwarzbrod, quels enseignements faut-il tirer de ce scrutin dans le Doubs ?
Alors moi, j'en vois trois. Trois enseignements de ce scrutin qui étaient par ailleurs passionnants, franchement. Premier enseignement, et ça, Barbier l'a bien résumé, il n'y a en effet pas de quoi pavoiser pour le PS. On ne peut pas dire que ce soit une grande victoire pour le PS. Et je pense que celui-ci va devoir bosser avant les départementales. Il y a manifestement, même si on a bien vu qu'il y a l'esprit du 11 janvier est toujours un petit peu là, mais il va falloir bosser, notamment sur les sujets de l'immigration, de l'islam, qui sont les plus clivants en France. Deuxième enseignement, c'est une gifle terrible pour l'UMP, à deux titres. D'abord parce que la défaite au premier tour, c'est quand même grosse gifle. Deuxième gifle, l'espèce de patouillage qu'il y a eu pendant les jours qui ont suivi. Il n'y avait plus de chef, manifestement, plus de chef. Il y avait des chefs haillons qui donnaient des ordres parfois contradictoires. Et ça, c'était terrible. Troisième enseignement, les digues ont sauté entre l'UMP et le FN. Il y a une porosité terrible entre l'UMP et le FN.
Alexis Brézet.
Oui, alors, esprit du 11 janvier, moi j'ai plutôt le sentiment que c'est exactement l'inverse, en tout cas en totale contradiction, les résultats de cette élection avec ce qu'on nous a raconté après le 11 janvier. Parce que qu'est-ce qu'on nous avait dit après le 11 janvier ? Que les Français avaient manifesté pour le vivre ensemble et contre tous les extrémismes, et que d'ailleurs Marine Le Pen s'était discréditée en n'allant pas à cette manifestation. Bah, le résultat, on l'a vu, c'est que Marine Le Pen, c'est quand même elle qui tire les marrons du feu de cette histoire. Et que sans doute les Français n'avaient pas manifesté contre tous les extrémismes, ils avaient manifesté contre l'islamisme et le terrorisme islamiste, et qu'il fallait quand même pas être bien grand clair pour se dire que le Front National allait en bénéficier. Ça fait 20 ans qu'il insiste, alors avec des excès, sur ce risque-là. Et bien aujourd'hui, évidemment, c'est pas absolument étonnant que ce soit le Front National qui en profite. Quant aux digues, vous avez sans doute raison, sauf qu'il faut dire que ce sont les digues des deux côtés qui ont sauté. Le Front National profite au premier tour des voix du Parti Socialiste. On a fait une étude très intéressante dans le Figaro, c'est Jérôme Fourquet de l'IFOP qui a fait ça, et il montre, commune par commune, que plus le PS baisse par rapport aux dernières législatives, plus le FN progresse. Donc ce sont les voix de gauche qui, au premier tour, vont du côté du FN. Et puis au deuxième tour, l'UMP n'est plus là, et effectivement, on voit aussi que ce sont les voix, une partie des voix de l'UMP, qui vont rejoindre le Front National. Donc, et c'est sans doute toute la force de la stratégie de Marine Le Pen, c'est qu'elle va chercher des voix des deux côtés, à gauche et à droite.
Alors,
pour moi, l'esprit du 11 janvier, on le sent uniquement dans le fait que le PS est au deuxième tour. Il y a deux mois, il est à craindre que ça se termine avec une bataille UMP-FN. Là, c'est juste, mais je vous le concède.
C'était quand même une circonscription très à gauche. Si on regarde par rapport aux dernières législatives, le PS perd plus de 10 points. Alors, il aurait peut-être pu en perdre 15. Alors, on va dire, de ce point de vue, c'est mieux. Mais enfin, si on regarde les chiffres, le PS perd plus de 10 points, l'UMP en gagne 2-3, et puis les 9 points, c'est le Front National qui les gagne. Donc, c'est vrai que c'est une gifle pour l'UMP de ne pas être au second tour, mais eu égard à la sociologie de la circonscription, c'est pas si étonnant que ça, finalement.
Cela dit, vous avez vu, il y a une récente étude qui est sortie, là, cette fin de semaine, qui dit que la moitié des électeurs UMP a voté FN au second tour. Et juste un quart a voté PS au second tour. Donc, il y a quand même eu un report massif de l'UMP vers le FN.
C'est vrai que, oui, parce que, évidemment, il y a plus d'électeurs UMP qui vont voter Front National, parce qu'ils n'ont pas de candidats. La même étude dont je parlais tout à l'heure montre que là où le Front National progresse le plus d'un tour à l'autre, c'est là où l'UMP était le plus fort. Donc 50, ça me paraît un peu beaucoup, mais ça serait 40. C'est très difficile de savoir, puisqu'il y a aussi les abstentionnistes qui sont mobilisés. Mais qu'il y ait 40% d'électeurs UMP qui aient voté Front National dans une circonscription populaire, c'est pas du tout étonnant. Hein.
Alors certains observateurs disent maintenant, avec le vote FN, on est passé d'un vote protestataire à un vote de conviction. Est-ce que ce scrutin dans le Doubs, ça signifie qu'une victoire de Marine Le Pen à l'élection présidentielle n'est plus impossible? Alexandra Schwarzmann.
Ça, c'est pas évident. Mais évidemment, là, on joue un petit peu à se faire peur. Mais c'est pas du tout évident, parce qu'on voit bien, notamment, et ça, toujours dans cette étude qui est sortie en fin de semaine d'un chercheur de l'université de Picardie, qui montre bien que la perspective de voir un candidat frontiste passer au second tour a poussé les électeurs, notamment de gauche, mais peut-être sans doute que certains de droite, j'espère, à aller voter au second tour. Et donc, je pense quand même qu'il va y avoir un sursaut, in fine.
Moi, je crois qu'aujourd'hui, plus rien n'est impossible, parce que notre système politique est en train de vivre un ébranlement colossal, qui est le passage d'un système bipartite à un système tripartisan. On s'installe durablement dans le paysage, une répartition en gros en 3/3, hein, si on veut aller vite, le PS, l'UMP et le Front National. Et dans un système tripartisan, il faut bien voir les conséquences. La position la plus dangereuse, c'est celle du plus petit. Aujourd'hui, le plus petit, c'est le Parti Socialiste. C'est lui qui court le risque le plus d'être éliminé s'il n'arrive pas à faire l'union avec les autres partis de gauche. La position la plus inconfortable, je ne dis pas la plus dangereuse, mais la plus inconfortable politiquement, c'est celle de celui qui est au milieu, qui doit se battre sur deux fronts. Est-ce que je vais chercher les voix d'un côté ou de l'autre? Et ça, c'est celle de l'UMP. D'où tous ces tiraillements qu'on voit à l'UMP. Et la position la plus confortable, c'est de celui qui est ni le plus petit, ni au milieu. Et bien ça, c'est le Front National.
Bien sûr, d'ailleurs, on l'a vu ces dernières semaines, hein, où finalement, Marine Le Pen, on l'a très peu entendue pendant tout ce mois de janvier. Elle était là, elle attendait tout simplement de récolter la mise.
Alors, autre événement cette semaine, Manuel Valls en visite à Marseille lundi pour annoncer un bilan sécuritaire plutôt encourageant dans les Bouches-du-Rhône depuis 2012 et quelques heures avant son arrivée. Une fusillade dans le quartier de la Castellane, des tirs à la Kalachnikov. Évidemment, ça fait mauvais effet, visite gâchée, ou alors il ne faut pas se fier aux apparences, Alexis Brézet ?
Non, bah c'est sûr qu'il aurait préféré un autre climat pour sa visite, mais je pense que ce n'est pas ça l'important. L'important, c'est ce qui s'est passé. Parce qu'il faut quand même voir ce qui s'est passé ce matin-là à la Castellane. C'est-à-dire que les habitants, à 9h30 du matin, les habitants de ce quartier de Marseille, voient des jeunes encagoulés, armés, s'installer dans les rues, sur les toits, et commencer à tirailler. Là-dessus, les policiers arrivent, alertés, et le patron de la police, le patron de la sécurité publique, se fait rafaler à la Kalachnikov. C'est absolument inouï. C'est une scène de guerre. Autrefois, il y avait des échanges de coups de feu entre gangs. Maintenant, les gangs, parce que c'est une histoire de gangs, de trafic de drogue, les gangs tirent sur les policiers, et en l'occurrence, le patron de la police. Alors, évidemment, c'est pas bon pour Manuel Valls. Peut-être un peu injuste, parce qu'il paraît que la situation, et c'est sans doute pas faux, s'est améliorée à Marseille. C'est dire si elle s'est améliorée, dans quel état elle était, et elle est toujours aujourd'hui.
Alexandra Schwarzbord.
Non, c'est clair que là, on va pas le cacher. Hein. Ça faisait extrêmement mauvais effet. C'est une situation dingue, hein. Ces tirs de la Kalachnikov, alors que Valls était là. Cela dit, voilà, moi je suis d'accord avec Alexis, on peut pas réduire la politique de Valls à ce qui s'est passé à Marseille ce jour-là. On ne peut pas non plus éradiquer une politique qui, depuis 30 ans, qui a laissé prospérer ces gangs, le trafic de drogue. On ne peut pas le régler en deux ans, en trois ou en quatre même.
Mais ça veut dire qu'il y a des zones de non-droit en France?
Ben, ça veut dire qu'il y a des zones sur lesquelles il y a un sacré boulot à faire. Et ça veut dire aussi tout ça que la politique globale qu'a souhaité mener Manuel Valls en matière de sécurité, c'est-à-dire globale, ça veut dire qu'il n'y a plus seulement une question de sécurité, mais il faut aussi renforcer les moyens de la justice. Et surtout les moyens de l'éducation. Parce que tout ce qu'on vit là depuis des semaines, tout ça montre que la priorité, c'est l'éducation. Et dans ce domaine-là, plus que dans tout autre.
Alexis, ça veut dire, oui, qu'il y a en France 40, 50, 60 quartiers comme ça qui vivent du trafic de la drogue, avec une économie parallèle, avec les jeunes guetteurs, avec les nourrices qui sont les mères célibataires qui cachent dans leurs appartements soit les armes, soit la drogue, avec les gars qui vont dealer, avec les chefs de gang. Et dès qu'on commence à les déranger, maintenant, ils tirent dans le... C'est très très grave. Ça veut dire qu'à un moment, il va falloir quand même faire respecter la loi. C'est aussi bête que ça. Et c'est pas du tout la faute de ce gouvernement. Enfin, c'est 30 ans de responsabilité collective. Sauf qu'il va falloir s'y attaquer. Oui, et s'y attaquer vraiment. Et Alexandra parlait de justice. Oui, et s'occuper aussi de la réponse pénale. Parce que effectivement, si tous ces petits délinquants, chaque fois qu'ils commettent un délit, on dit ben, il n'y a pas de peine, on les remet dehors, et les policiers les retrouvent cinq minutes après dans les quartiers, c'est pas comme ça qu'on leur réglera le problème.
Alors cela dit, il ne faut pas réduire non plus les quartiers aux batailles de gangs. Hein. Tous les quartiers, on ne vit pas ça dans tous les quartiers.
Heureusement,
là,
sinon
en plus,
ce serait la guerre civile
là,
dans ce
Marseille,
pays.
Marseille, c'est vrai que c'était vraiment la caricature. Là, on est dans
l'extrême. Mais il y a quand même beaucoup de quartiers comme ça où la police ne peut plus mettre les pieds.
C'est vrai.
On est en France et la police ne peut plus mettre les pieds dans certains quartiers.
Merci Alexandra Schwarzbrod. Libération, Alexis Brézet, Le Figaro. À bientôt.
À bientôt.
Et se profile une autre Alexandra. Vous savez laquelle ? Alexandra Hacoun.